MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Bonjour chez vous. Une semaine où j'ai pu animer cette émission. Déjà, je dis merci à Yveline Lebeau qui fait un travail extraordinaire. Ça a l'air simple, mais c'est hyper compliqué ce qu'elle fait comme travail.
Donc, ah bon?
Bravo Yveline!
Bravo Nazine! Bravo, bravo Nazine pour toi!
Et bravo Yveline! Et aujourd'hui, dans cette dernière émission, je suis avec Omer, mon mari que j'aime beaucoup, et Frank, que j'aime beaucoup aussi.
Elle l'a dit!
Je l'ai dit!
Tu nous aimes les deux, mais lui plus. Mais aujourd'hui, on a une chemise fleurie avec des teintes orangées.
On a trouvé enfin notre couloir.
Ouais, on est en harmonie.
T'avais pas
remarqué encore? J'ai remarqué juste avant que ça commence.
Wow!
Cool!
Et aujourd'hui, on va faire une émission très spéciale, très importante. On parle de la violence verbale. Attention à la violence verbale, c'est notre thème. Parce que la violence physique, elle est des fois plus facile à remarquer, mais la violence verbale, des mots qui cassent, des mots qui humilient, des fois, elle est plus subtile et beaucoup d'entre vous vont la subir ou même vont l'infliger malgré vous. Et aujourd'hui, on va parler justement par rapport à cette violence verbale. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons un témoignage, le témoignage d'Alexandre, qui va venir raconter lui aussi comment il était une personne très violente, mais Dieu l'a transformé. Et on dit amen.
Amen.
Une très, très belle émission. Alors, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour.
Stop à la violence, stop à la violence. Et souvent, on va se résoudre à la violence parce que c'est le seul langage qu'on connaît. Souvent, si on est stressé, pressé ou dans l'inconfort, ça va être la seule chose vers laquelle on va se résoudre parce que c'est peut-être des choses dans lesquelles on a grandi, des choses que l'on a vues ou le seul modèle qu'on connaît. Mais aujourd'hui, peut-être que tu es dans ce schéma et tu es né de nouveau. Et j'aimerais te parler de la transformation que Jésus peut t'emmener. Dans la Bible, dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 6, la Bible dit « Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Et en fait, lorsque on est violent, verbalement ou physiquement, la violence envoie quatre messages qui peuvent nous appeler à quatre types de changements dont j'aimerais te parler. Et je crois que Dieu peut te transformer. On a vu des gens qui, comme Moïse, qui a réagi par la violence, mais Dieu le transformait. On a dit, c'était l'homme le plus patient au monde. L'apôtre Paul, capable de prendre les gens, de les mettre en prison, il est devenu quelqu'un de grand. Il y a de l'avenir pour toi. Qu'importe ce que tu exprimes comme violence, Jésus peut te transformer aujourd'hui. En fait, la violence, lorsqu'on est violent verbalement, continuellement, la violence peut exprimer que l'Évangile n'a pas encore pénétré profondément dans notre cœur, qu'on est encore un chrétien de surface et que ce travail de l'Évangile n'a pas encore été fait. Et si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à continuer tes progrès dans le Seigneur. Dieu ne te juge pas, mais Dieu t'invite à continuer ta marche et tu seras transformé. La violence indique aussi que dans ta marche chrétienne, tu n'as pas encore développé la maîtrise de soi. Car tout le monde est sous pression d'une manière ou d'une autre avec les circonstances de la vie de s'exprimer. C'est la chose la plus facile en fait, être violent. Mais lorsqu'on est un chrétien, lorsqu'on est un enfant de Dieu, la maîtrise de soi est une manifestation de la transformation de notre caractère. Et donc, tu as besoin que Jésus continue à transformer ton caractère pour que même sous pression, tu sois capable de te maîtriser. La violence que tu exprimes envoie un autre message. La violence envoie un message que tu es quelqu'un qui a été blessé intérieurement, sûrement que tu as subi de la violence et cette violence t'a créé de la blessure. Il y a un personnage comme ça, un des descendants de Caïn, qui a dit « il a été blessé », donc il blesse en fait. Il dit « j'ai été blessé, je blesse ». Et souvent, on pense que c'est une façon de se protéger parce que nous-mêmes, nous n'avons pas été guéris, nous-mêmes, nous vivons encore ces insécurités-là. J'aimerais te dire que le Seigneur Jésus peut te sécuriser, te mettre dans un bon état, comme cet homme qui était avec plein de démons à Guédara, et cet homme était violent avec toute la communauté. Mais lorsque Jésus l'a croisé, sa vie a été transformée. La Bible dit que cet homme était assis et dans le bon sens. Mm-hmm. Et quand je parle de blessures intérieures, parfois dans nos blessures intérieures que nous exprimons par la violence, il arrive parfois aussi que certains démons de violence s'insèrent en fait et s'expriment au travers de nous. Aujourd'hui, Jésus peut te délivrer. Quatrième type de message que la violence envoie, elle envoie que le message que nous avons des carences émotionnelles, insécurité, peur, rejet. Toutes ces choses font que nous avons des carences. Nous n'avons pas assez été aimés. Et parfois, lorsque quelqu'un va rentrer dans notre bulle, notre travail, c'est de le repousser. Mais aujourd'hui, Jésus peut te sécuriser et tu peux être capable d'expérimenter l'intimité dans ta relation avec les autres, ton frère, ta sœur, ta femme, ton mari. Tu peux exprimer l'intimité. Tu peux dire comment tu te sens sans avoir peur que tu sois victime de moquerie ou d'humiliation. Alors, le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, « Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas. » J'aimerais te terminer en disant, « Jésus est en train de te transformer. Laisse-le continuer son travail. »
Amen, amen, amen. Merci pour cette très belle pensée. Et quand tu parlais, je me dis, c'est vrai, en fait, des fois, on réagit. On parle de violence verbale, donc c'est des mots. Donc la violence verbale, ça peut être une femme qui fait 1m60, qui fait 50 kilos, qui peut dire des mots très, très durs. C'est pas obligé d'être un grand gaillard, en fait, parce que c'est des mots qui vont blesser, des mots qui vont humilier, des mots qui vont casser. Et ce que j'aimais dans ta pensée, c'est que tu relevais des causes, en fait, de ces agissements-là. Des fois, on agit, mais on comprend pas qu'il y a une cause derrière. Et moi, je me rappelle, en grandissant, mon père était très sévère sur la façon dont on se parlait. Des fois, à l'école, tu entendais des amis dire aux autres « grosses têtes » et des choses pareilles. Toi, à la maison, tu disais ça, mais tu étais puni dans ta chambre. C'est fini la journée, c'est comme si tu avais tué quelqu'un. Il était tellement sévère parce qu'il nous avait vraiment inculqué la puissance des mots. Et ça m'est resté que quand je ne parle pas à la légère, parce que vraiment, j'ai la conscience que les mots peuvent vraiment avoir un impact. Alors, je me dis dans l'inverse, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où on disait n'importe quoi, où est-ce que les parents peut-être se disputaient devant nous, disaient des gros mots, etc. Des fois, on se retrouve à le dire, comme tu dis, on est chrétien, on est né de nouveau, on sert le Seigneur, on veut bien faire, mais c'est comme si quand on est frustré, quand on est énervé, quand on est pressé, la parole, elle sort de notre bouche avant qu'on s'en rende compte et on fait des dégâts, en fait.
Mais en fait, c'est quand le fer est chaud que les scories peuvent remonter à la surface. Parfois, on pense que j'ai la maîtrise de moi-même jusqu'à ce qu'il y a une situation qui chauffe. Et ce n'est pas mauvais, parce que ça nous permet de voir dans notre transformation où est-ce qu'on est rendu. Il y a des gens, peut-être qu'au début, je ne sais pas, de leur vie chrétienne, c'est que si ça chauffe, ben, sa main part rapidement. Mais peut-être qu'il arrive à un point où ça chauffe, mais c'est plus sa main, c'est sa bouche. Bon, on a fait du progrès, c'est pas encore là, mais il y a eu du progrès. Et je crois que certaines situations sont nécessaires pour que nous puissions voir où est-ce qu'on est rendu. Tu peux parler que tu es brisé jusqu'à ce qu'il y ait une situation où tu dois manifester le brisement. Et c'est vrai, et on doit vraiment voir. Et je voudrais que les gens ne marchent pas dans une culpabilité, mais plutôt de regarder où est-ce que Jésus les a pris et où est-ce qu'ils sont rendus aujourd'hui. Célébrez vos petites victoires et laissez le Seigneur continuer son travail.
Ouais, il y a ce passage qui nous dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » En fait, quelqu'un qui est violent comme ça, ou tu le dis, Omer, que cette personne-là est blessée. Majoritairement parlant, c'est des gens qui sont blessés, qui sont frustrés, qui sont amers, qui ne manifestent pas le fruit de l'esprit. Et en fait, à la base, ça doit partir avec une intelligence, un âme qui est renouvelée à l'image de l'Esprit de Dieu en nous. Donc, l'Esprit de Dieu veut nous amener à une vie de douceur. Le fruit de l'Esprit veut se manifester. T'es quelqu'un qui parle sec, toujours. « Hey, je t'ai dit! Fais pas ça! » Et c'est constamment comme ça. T'es dur, rigide, sec dans la façon que tu communiques. Et là, l'Esprit de Dieu veut manifester en toi le fruit de l'Esprit, t'amener la douceur et te faire voir que « Wow! Mais je suis rigide, je suis sec. » Il veut te transformer. Et une fois que tu es transformé au niveau de tes pensées, ton intelligence aussi, ça se manifeste par la suite ailleurs aussi. Là, on parle d'être blessé, mais on parle aussi des gens qui, eux, sont de l'autre côté, qui reçoivent la violence verbale, qui se font agresser eux-mêmes aussi. Mm-hmm. Et c'est important de comprendre que la langue, ça, la Bible est tellement claire, elle est toute petite, mais elle va embraser des forêts tout entières. Elle fait des dégâts impensables parfois, les choses qui sont dites et qui sortent de nos bouches. Et aujourd'hui, s'il y a des choses qui ont été dites par rapport à votre vie, qui vous ont été des choses blessantes qui vous ont marqué des années plus tard encore, il faut apprendre à aller au Seigneur et même exposer cette chose-là parce que ce n'est pas sa volonté que vous puissiez vivre avec cette blessure-là, avec le poids qui a été mis sur votre... C'est comme un joug qui a été mis parce que la parole était comme une épée, paf, qui s'est plantée en vous et elle a fait des dégâts. Les personnes qui l'ont dite s'en rappellent parfois même plus qui vous ont dit telle ou telle chose, mais ça a créé en vous des dégâts. Et là, il faut savoir aller vers le Seigneur et dire, « Seigneur, j'ai cette blessure-là, je veux en guérir, c'est pas ta volonté. » Et puis, vous le savez, juste en vous parlant, juste en disant ces mots, vous savez qu'est-ce qui est en vous, qui doit être guéri, restauré, l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en vous, vous savez qu'est-ce que c'est. Et là, il faut pardonner à ces gens-là, même si vous ne les connaissez même plus, il faut pardonner et dire, « Seigneur, je les pardonne pour qu'est-ce qu'ils ont dit. » Je ne veux plus marcher avec cette étiquette-là ou cette blessure-là qui a été infligée dans ma vie. Je refuse ça.
Et lorsque Jésus parle, et je veux rebondir vraiment sur le point des paroles qui ont été dites, on minimise la parole. On pense que la parole, c'est des mots. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mm-hmm. Et lorsque nous parlons, c'est en fait, Jésus explique le principe de la parole. Les paroles que nous dégageons ne sont pas simplement des mots, mais elles peuvent être esprit et vie ou esprit et mort.
Ouais.
Et souvent, l'ennemi va utiliser les paroles comme une puissance d'emprisonner les gens. Et il y a des gens qui écoutent aujourd'hui qui sont littéralement emprisonnés. La personne n'est plus là, la personne est sûrement décédée. Mais les paroles qui ont été lancées, c'est une prison dans laquelle l'ennemi t'a mis, t'a défini, et toi, tu vis dedans. Mais aujourd'hui, cette porte de prison dans laquelle tu as été mise, le Seigneur Jésus peut rentrer comme il est rentré dans la prison de Pierre et ouvrir cette porte de prison comme l'ange était rentré et te conduire vers la porte de sortie pour que tu ne sois pas ce qu'une personne a dit que tu es, mais pour que tu comprennes que tu dois devenir tout ce que Dieu a prévu que tu deviennes.
Amen, amen. Et vraiment, c'est ça le but de cette émission, c'est aussi de vous encourager. Si vous avez reçu une parole, Omer a parlé d'être défini. Et c'est vrai, des fois, des mots blessants peuvent nous avoir définis et on se réfère à ce qui nous a été dit. C'est vraiment des agressions. Vraiment, une parole dure, une violence qui est verbale est tout aussi forte, des fois même qu'une violence physique, parce qu'elle va même marquer, elle va rester plus longtemps. Un bleu, une blessure peut passer, mais des mots cassants qui ont été reçus peuvent vraiment rester dans notre âme pendant longtemps. Et vraiment, que vous puissiez aller dans la présence de Dieu pour être restauré, pour connaître votre valeur et savoir que vous êtes précieux et que les mots qui ont été dits sur votre vie ne comptent pas, seule la parole de Dieu compte. Et pour terminer ce temps de discussion, je vous partage notre verset du jour, que je prie soit le verset que vous puissiez méditer, vous et moi, et que vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons connus pour cela. La Bible dit dans Colossiens 4, au verset 6, « Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » La parole de Dieu nous encourage à avoir des paroles, des bonnes paroles, que vraiment la violence verbale ne soit pas trouvée au niveau de nous, enfants de Dieu, mais qu'au contraire, qu'on nous connaisse comme étant des personnes qui parlent la vie et non la mort. Et tout de suite, on va aller dans notre deuxième partie d'émission pour écouter le témoignage d'Alexandre dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois un frère, il s'appelle Alexandre et il vient nous raconter son histoire. Salut Alexandre.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va.
Ça va. Merci d'être là, d'avoir accepté cette invitation pour nous partager ton témoignage, comment Dieu est intervenu dans ta vie pour vraiment te transformer. Toi, ton histoire, on va la commencer à ton enfance, on va parler un petit peu de ta famille. Tu m'expliquais que dans ta famille, vous n'étiez pas des grands communicants au niveau oral, verbal, et qu'assez tôt, toi, tu as pris l'habitude plutôt de communiquer par les poings, par la violence, c'est ça?
Oui, quand j'étais jeune, il y avait beaucoup la communication était plus au sens physique. Si on t'aimait, on te faisait des belles choses, on t'achetait des cadeaux, dans ce sens-là. Puis si on t'aimait pas, tu le savais aussi.
C'est clair au moins.
C'était très clair.
Mais c'était pas forcément par les mots.
Non, c'était pas par les mots. Moi, j'avais beaucoup de la misère à m'exprimer. Fait que en ayant un gros de la misère à m'exprimer, j'ai pris vite l'habitude avec mes points. Fait que c'est ça. Moi, une fois que ça c'est parti, mais c'est comme ça a commencé jeune, puis éventuellement, ça s'est amplifié. Là.
C'est ça. Et tes parents, voyant que tu avais tendance à des fois te battre à l'école, des choses comme ça, ils se sont dit on va l'inscrire au judo. Peut-être que ça va l'aider à canaliser tout ça. Ça a produit quoi pour toi?
En fait, pour eux autres, ils ont vraiment voulu bien faire. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça allait créer? C'est que ça allait développer encore une passion plus profonde pour le sport de combat. Ça l'a fait que, en fait, je cherchais ça de tout bord, de tout côté. En fait, je cherchais juste à provoquer les gens, puis en réalité, me prouver moi-même dans ce sens-là.
C'est ça. Donc, dès que tu avais l'occasion de générer une bagarre, si quelqu'un te disait un mot de travers, n'importe quoi, ça partait. Et donc, tu as fait de la boxe, tu as fait différents sports de combat, tu t'entraînais énormément. C'était vraiment une passion pour toi?
Oui, c'était vraiment mon Dieu. Là. C'était, pour bien dire, là, c'était vraiment ça. C'était ma vie, c'était mon moyen pour me gérer, c'était tout.
Et vers l'âge de 14 ans, tu voyais bien que ce n'était pas normal, que toute cette colère que tu avais en toi, tu essayais de te maîtriser, mais c'était difficile?
Oui, c'était très difficile quand j'étais jeune pour être capable de me contrôler. En fait, je fermais mes poings, puis je laissais cette colère-là revenir très profond. Puis c'est comme si ça disparaissait jusqu'à un prochain événement.
Oui, c'est ça. C'est que t'en étais jamais délivré, finalement. Mais t'aimais pas ça. Pour toi, c'était pas quelque chose d'agréable d'être un gars qui se bagarre, qui est violent. T'avais pas de plaisir à ça. C'est pas le genre d'homme que tu voulais être.
Non, moi, j'ai toujours été... Mon cœur, j'ai jamais voulu faire mal aux gens. Je voulais que les gens comprennent un message. Ça a tout le temps été ça, ma fondation, là, si tu veux. J'ai jamais été quelqu'un vraiment de méchant, de cœur. C'était pas moi, ça. C'est pas dans notre famille, vraiment, là.
C'est ça, tu voulais te faire respecter et puis marquer tes limites. Mais bah, comme en plus tu faisais des sports de combat, tu maîtrisais certaines techniques, donc tu savais très bien le faire. Et ouais. C'est ça?
Oui, en fait, mes frères ont été gros des punching bags, un petit peu si tu veux.
Tu t'es beaucoup entraîné sur eux. Pas avec eux, mais sur eux.
Oui, sur eux. Puis ça a été rock'n'roll beaucoup.
Oui, j'imagine. Et un soir, c'est la Saint-Jean-Baptiste, tu as presque 18 ans, 17 ans, trois quarts, on va dire. La Saint-Jean-Baptiste au Québec, c'est quand même une fête assez festive où on boit, on fait la fête. Et là, il y a un gars qui va un petit peu te provoquer, c'est ça?
Oui, en fait, dans les derniers temps, je commençais vraiment à « downgrade », comme on dit en anglais, à abaisser.
Abaisser, oui.
J'étais en train de T'sais, je cherchais plus ça, je devenais plus méchant. Fait que quand je suis allé à la Saint-Jean, ben moi, c'est ça que je cherchais. Puis quand j'ai vu la porte d'entrée, c'est comme si c'était quoi qui me disait, fais juste le laisser. Fait que normalement, j'avertissais pas. Fait que ce gars-là, il avait 25 ans, j'avais dit arrête. Puis finalement, ça a continué. J'ai redit encore arrête, ce que je ferais jamais. Et la troisième fois, ben éventuellement, ça l'a amené que je l'ai flippé à terre, je l'ai frappé. Puis en le frappant, ça faisait comme un double contact à cause qu'il...
Sa tête frappait sur le sol, c'est ça?
Oui, sa tête frappait sur le sol. Quand il s'est reviré de bord, je l'ai vu en train... il a toussé du sang, environ long comme ça. Ça sortait de lui, puis tout de suite, il y a quelque chose dans l'esprit qui est comme l'horloge a tourné.
Puis t'as je senti savais que là, il s'était passé quelque chose.
Oui, il y a quelque chose que je savais que c'était plus pour être pareil. Là. Mm-hmm. Fait que je me suis souvenu à l'école, les cours de secourisme. Fait que je l'ai mis sur le côté pour pas qu'il se noie.
Oui, dans son sang, parce qu'il était plein de sang dans sa bouche, en fait.
Oui, il était plein de sang. J'ai regardé une personne à côté, j'ai dit appelle 911, puis moi, je me sauvais.
Donc l'ambulance est venue. Il a survécu, lui. Mais très vite, la police t'a retrouvé. La police est venue frapper à la porte de votre maison. Ta famille, tes frères, tes parents sont tous là. Comment ça se passe?
En quittant, j'appelle ma famille. Puis là, je dis, Mom, Dad, il faut que vous descendez tout de suite parce que c'est sérieux, là. Mm. Fait qu'eux autres, ils ne se posent pas de questions, ils descendent tout de suite. Eux autres, quand ils arrivent, tout le monde pleure, surtout moi, parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient, right? Fait que ça reste comme ça. Finalement, ben la police vient me chercher. Je continue, je me fais amener à un centre de jeunesse de 18 à 21 ans. Puis dans le centre de jeunesse, ben j'attends un laps de période là, pour avoir mon...
Le verdict, en fait, comme une condamnation, en fait, parce que comme tu as presque 18 ans, finalement, il y a de fortes chances que tu sois jugé comme un adulte et donc tu pourrais faire jusqu'à 15 ans de prison, c'est ça?
Oui.
Ou la juge te fait grâce, entre guillemets, et tu restes en centre de jeunesse parce que tu es considéré comme un mineur, c'est bien ça?
Oui. Mes parents se sont tournés de bord. Ils ont fait appel à plusieurs églises pour prier pour moi.
Mm-hmm.
Fait qu'à ce moment-là, moi, je ne m'attendais à rien. Quand j'étais arrivé le moment de la cour, mon avocat, qui était pour moi, m'a dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Là. Tout est contre nous autres. Ça, on regarde pour 15 ans de prison.
Voilà.
Fait que quand on est arrivé dessus, sur la scène, la juge était très bête. Mais d'un dixaine, la juge s'est tournée, puis elle a fait ça avec son marteau, puis elle a dit il va être jugé mineur.
Wow.
Donc, j'ai eu, en place de 15 ans, j'ai eu un an et quelques.
C'est fou. T'as vu quand même la main de Dieu? Parce que bon, tes parents étaient quand même chrétiens dans une église plus traditionnelle. Tu connaissais un peu l'existence de Dieu. À ce moment-là, tu te dis, Dieu est intervenu pour moi?
Pour moi, c'était clair. Mm. Il y avait les soirées que je passais dans la chambre. Je priais la nuit, je me mettais à genoux. Il y avait la lune devant moi. Mm. Puis je regardais la nature dehors. Puis je faisais juste prier. C'était ma seule option. Là. Il n'y avait plus rien d'autre qui pouvait arriver là.
Et tes parents t'ont offert même une Bible, et quand tu étais dans le centre, tu as lu tout l'Ancien Testament?
Oui, je me suis mis à lire tout l'Ancien Testament, mais c'était pas, ça ne m'avait pas changé.
Mm-hmm.
Ça a tout le temps resté pareil. Quand je suis ressorti, en fait, ça l'a même amplifié. Ça m'a appris à jouer le jeu 24 heures sur 7, si tu veux.
Mm-hmm. C'est ça, c'est que pour sortir, tu savais ce qu'il fallait dire, tu savais comment il fallait te comporter. Donc, tu as su un peu manipuler pour que tu puisses sortir, mais tu n'étais pas transformé. Quand tu es ressorti, toute cette colère, elle était toujours là?
Oui, puis plus. Parce que là, faut que tu joues le bon garçon. Puis là, tu as un an et quelques que offre-lui de Saint un bon garçon. Fait que quand je suis sorti, j'ai fait un gros dérap. Très gros dérap.
Mm.
Ouais.
C'était dur, cette période.
Oui, cette période-là, ça a été très profond. Ça a été dans une malice plus profonde. Mm. C'était plus juste à la surface.
Ouais. Et là, tu revois une ancienne petite copine que tu avais eue. Vous vous revoyez, vous recommencez une relation. Elle est chrétienne, elle va à l'église. Elle a même une chambre de prière dans sa maison. Enfin, voilà, elle aime vraiment Dieu. Et un jour, tu te dis, je vais l'accompagner à l'église. C'est ça?
Oui, ça faisait un bout qu'elle avait une chambre de prière qui me travaillait énormément. éventuellement, je dis, regarde. J'ai dit, je vais aller à l'église. Puis à l'église, il y avait plusieurs personnes qui venaient me voir. Ces personnes-là, c'est comme s'ils savaient des choses dans ma vie auxquelles que moi, je ne les connaissais pas. Fait que je savais que ça me touchait, mais en même temps, je me moquais d'eux autres. Ça a été une longue période. J'étais encore dans l'entraînement. J'étais encore dans ma phase.
Oui, c'est ça. Là, tu étais encore dans les combats, mais tu allais à l'église. Dieu te parlait, mais tu ne voulais pas vraiment lâcher. Et puis, il y a le papa de ta petite copine à ce moment-là qui va t'offrir un Nouveau Testament, c'est ça?
Oui. Michael, qui s'appelle, un évangéliste, il me donne le Nouveau Testament. Fait que je prends le Nouveau Testament, je dis, OK. Fait que je mets ce Nouveau Testament-là. Je l'ai dévoré. Je voyais... Dieu me parlait là, à travers ça, là, incroyablement. J'avais des choses qui me montraient dans mon passé. C'était... Même ma copine, dans ce temps-là, elle me disait... Elle ne comprenait pas comment que je comprenais les Écritures de même, mais c'était le Saint-Esprit qui était en train de me diriger. Là.
Wow! Là, tu savais que Dieu était en train de te parler au travers de sa parole. Et un soir, tu es à une fête, tu te retrouves autour d'un feu de camp avec ton frère. Et puis bah là, tu as bu, t'es encore vraiment entre les deux. Hein. Et qu'est-ce qui se passe cette soirée-là?
On est vraiment plus là. Fait qu'on est à un feu, il reste moi et puis mon frère, Will. Puis à un moment donné, je lâche mon breuvage, puis je dis « Will, Dieu m'appelle ». Fait que là, mon frère William me regarde et dit « Arrête, là ». Il dit « T'es chaud comme une botte, là ».
T'as bien trop bu.
Fait que je dis « Will, tu comprends pas, Dieu m'appelle ». Fait que je me suis retiré. Après ça, on était se couché. Puis à partir de là, j'avais plein de questions, là. C'était beaucoup, beaucoup de questions, dont, premièrement, je me demandais à qui prier. Je me disais, je savais que Dieu était là, mais à qui prier? Il y a plein, les musulmans, les bouddhistes, les... Fait que j'ai dit, je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu te révèles. Je veux pas juste faire à semblant. Je veux que ça soit vrai. Puis cette nuit-là, quand je me suis couché, Dieu est venu se révéler à moi. Direct avant de me lever, je me suis retrouvé devant un immense trône. Puis je trouvais ça vraiment glorieux. J'étais comme, wow, j'ai aucun mot pour décrire. Puis à un moment donné, je me suis tourné à ma gauche, donc à la droite du Père, puis j'ai vu Jésus. Direct devant moi. Puis après ça, je me suis relevé. Et là, à ce moment-là, j'ai dit, OK. I'm all in. Je suis dedans, là.
C'est ça. Là, vraiment, tu lui as donné toute ta vie. Tu as compris qui tu devais prier, qui était ouais. Dieu, et tu as vu Jésus. Et à partir de ce moment-là, ta vie, elle est transformée?
Absolument. Ben, je me souviens, je lisais le livre Smith Wigglesworth. Puis en lisant ce livre-là à moitié chemin, c'est là que j'ai reçu le baptême de l'Esprit. Je me mettais à parler en différentes langues. À l'époque, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire.
Wow! T'as commencé à aller même prier après pour les malades, t'as commencé à aller témoigner. Certaines personnes sont venues au Seigneur.
Yeah.
Et t'as commencé à vivre vraiment une vie avec Dieu, c'est ça?
Oui, absolument. À gauche, à droite, je priais pour les gens. Ça a pris jusqu'à 3 personnes. Après la 3e personne, je voyais des miracles en train de se produire. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il y en est.
Tu marches avec Dieu. Merci beaucoup, Alexandre. C'est un super beau témoignage. Et on est vraiment reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci d'être venu à C'est mon histoire.
Merci.
Wow! Gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie d'Alexandre. Merci, Seigneur, pour cette transformation. Et vraiment, ce que Alexandre a vécu, vous pouvez aussi le vivre. Si vous vivez, vous êtes dans un milieu vraiment violent, vous sentez que vous êtes très colérique, très violent, ce n'est pas la fin. Dieu peut vous transformer, Dieu peut vous changer. Que cette émission ne soit pas une condamnation pour vous, mais un encouragement, une inspiration que oui, vous pouvez changer. L'Esprit de Dieu habite en vous alors que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Maître. Et le fruit de l'Esprit veut se manifester pleinement. Que vous soyez connu comme une personne bienveillante, douce, pleine de joie, pleine de paix, qui apporte la vie de Dieu autour de lui. Et vraiment, ça va être une bénédiction pour votre entourage et pour le royaume de Dieu dans son entièreté. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. Notre semaine arrive à son terme. La semaine
bravo,
vient
Nadine.
Terminée.
Bravo.
Merci, merci beaucoup. Merci à Evelyne de m'avoir laissé sa chaise pour la semaine. Elle sera de retour la semaine prochaine pour des nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.